Entrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où ? Radio Balade 101.8.
Magasin gratuit. Je prends ce que je veux et c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. Aujourd'hui, nous allons aborder trois sujets de haute importance, on va dire, comme d'habitude, évidemment. D'abord, on va parler de la question de l'abstentionnisme, histoire de rester dans l'actualité.
Oui, je suis là.
Oui, oui, Fred. Ensuite, nous accueillerons dans l'émission Rémi Gerbet, qui est le président de Wikimedia France, et qui viendra nous parler de comment ça fonctionne Wikimedia, et notamment les projets que vous connaissez très certainement, Wikipédia. Et ensuite, Fred nous parlera d'un projet qu'il expérimente, qui est donc, Fred,
oui,
comment ça s'appelle exactement ?
La création d'une nouvelle monnaie qui s'appellera le Notcoin. Notcoin. Bon, j'essaie de le prononcer en anglais. Enfin, il sera prononcé en anglais, quand même.
Oui, de préférence. Ouais. Et note donc.
Note comme nœud. Voilà.
Ok.
Il y a le bitcoin. Bit comme bit.
Et knot comme knot. Voilà.
Comme nœud.
Merci, nœud. Merci l'accent. Voilà, donc bon, alors on commence donc par la question de l'abstentionnisme. Puisque vous savez que l'émission s'appelle Entrée sans payer. Et donc, on peut entrer aussi. Sans, on ne peut pas entrer sans rêver, pardon, c'est pas possible. Et on peut aussi entrer ou non. Donc, j'ai préparé un petit texte pour défendre la position abstentionniste. Pardon. Alors. Tandis que le fascisme progresse en Europe, la pression grimpe contre les abstentionnistes. Le discours ambiant devient de plus en plus réprobateur, offensif et simpliste. Il semble désormais n'y avoir que deux alternatives. Voter contre ou cautionner. Être responsable ou complice. Être citoyen, opposant docilement son bulletin de vote dans les urnes. Ou basculer du côté obscur. La République ou l'Empire, comme dans Star Wars. L'action politique se résume à ce dilemme exclusif. Plus de troisième voie, et encore moins le temps de réfléchir. La pensée devient comme paralysée par la terreur de la menace engendrée par les figures archétypales de l'Holocauste, de la Russie autoritaire et du nazisme. Et pris dans un univers mental où le résistant demeure la figure mythique d'un roman national idéalisé et amnésique, un sentiment de culpabilité profond peut envahir celui qui choisit de ne pas voter. Amnésique en effet, car il occulte l'engouement généralisé et peu glorieux qui gagna les Français pour un régime ouvertement fasciste et eugéniste, à savoir le régime de Vichy. On aura l'occasion d'en reparler.
Oui.
Dans ce climat de peur, de haine et de culpabilité refoulée, le ton est donc donné. Pas de troisième voie possible. La voie du sang, SANS, le non-agir, devient un crime abject. Des deux côtés, l'ennemi c'est le fascisme, le fautif c'est l'abstentionniste. Il y a d'un côté les valeureux citoyens qui combattent avec leur bulletin de vote, et de l'autre, les lâches, les irresponsables, les démissionnaires, dont le comportement quasi pathologique est savamment décortiqué par les politologues. C'est ainsi que l'injonction et la tradition du vote démocratique effacent toute nuance, toute réflexion sérieuse sur le rôle du système de vote dans les démocraties et sur les dérives de ces démocraties qui participent avec une impuissance croissante à l'essor de leur ombre maudite, à savoir le fascisme. Reste qu'une question demeure. Faisons-nous face aux prescriptions d'un courant idéologique traditionnaliste et conservateur qui, quel que soit l'enjeu du scrutin, nous ressort, on va dire, à chaque élection, l'étendard délavé d'une histoire mystifiée de la démocratie, où nos valeureux ancêtres seraient morts au combat pour défendre nos libertés et notre droit de vote, ou bien sommes-nous en face d'un courant progressiste qui défend ardemment la liberté face au chaos? Sans doute un peu des deux. Mais alors, voilà qui est bien étrange. Le vote, une valeur à la fois conservatrice et progressiste? Cette contradiction n'est qu'apparente, et elle révèle surtout la duplicité qui anime le débat politique contemporain. Le vote, en tant qu'instrument au service de la reproduction d'un système de domination, est sacralisé. Et c'est donc au final une technique décisionnelle, un processus formel qui devient la finalité exclusive de l'action politique. Aux libertés fondamentales vient se substituer l'obligation, morale et parfois même juridique, dans les pays où le vote est obligatoire notamment, de voter pour sauver l'honneur de la nation et pour en perpétuer l'identité. Voici donc un retournement bien étonnant. Le vote, censé être un outil au service de l'émancipation, est devenu le nouveau drapeau de l'impérialisme européen. Le marqueur est le prétexte de son expansionnisme. Le totem qu'il brandit pour se conforter dans la certitude qu'il est bien un peuple civilisé, assiégé par des barbares qui menacent la paix et l'ordre démocratique si durement acquis. Désormais, le régime sans vote est d'office assimilé à la tyrannie, tandis que le régime muni du vote est d'office démocratique. Dans ce contexte, plus que jamais, suivre ostensiblement la voie abstentionniste paraît irresponsable, inacceptable, inqualifiable. Mais pourtant, n'est-ce pas oublier un peu rapidement que ne pas voter est aussi un droit, et qu'en tant que tel, nous devons le défendre, même quand tout s'y oppose, et surtout quand une propagande alarmiste et moraliste nous pousse à voter résigné pour un parti dont nous ne partageons pas les valeurs. À vrai dire, s'abstenir n'est pas un choix passif et irresponsable, mais un choix cohérent et légitime. Tandis qu'à l'inverse, voter, du moins dans une démocratie représentative, peut sembler être l'acte irresponsable par excellence. Pourquoi ? Eh bien parce que le vote électoral a trois conséquences néfastes. Premièrement, il illusionne l'électeur sur son réel pouvoir de participation aux prises de décision collectives. Deuxièmement, il le déresponsabilise et le décourage de participer à la maintenance et à l'amélioration du bien public. Troisièmement, il amène l'électeur à cautionner, au moins symboliquement, son propre asservissement. Car voter, n'est-ce pas dire oui à la main qui tient le glaive au-dessus de nos têtes? N'est-ce pas tisser un lien invisible, presque ineffable, surnaturel, entre la main levée qui s'apprête à remplir l'urne sanctifiée par l'état divin et la main protéiforme qui s'abat sur le citoyen dès qu'il tente de se dérober à son emprise? Main invisible, main qui le spolie, main qui lève la matraque, main de justice, et main de tout autre instrument qui ne cessera tout au long de sa vie de le ramener dans le droit chemin. Qu'y a-t-il alors de si différent entre le geste religieux qui consiste à déposer son offrande devant un autel et celui qui consiste à glisser son bulletin dans l'urne? Dans le fond, pas grand-chose, même rituel et peut-être même irrationalité. Et dans le contexte d'une élection de masse, voter est par définition inutile. Et croire que son vote aura un impact sur le résultat final me semble tout aussi irrationnel que de hurler devant son poste de télévision ou sur les gradins d'un stade de foot en s'imaginant que cela aura pour effet de changer l'issue du match. En réalité, ce que l'on présente comme l'acte citoyen par excellence n'a qu'un impact infinitésimal sur le réel. Individuellement, voter ne change à rien, ou si peu. Alors certes, on connaît l'argument. Ne pas voter, c'est précipiter la victoire de l'extrême droite. Ou encore, si tout le monde fait comme toi, la France courra sa perte. Mais il ne faut pas tout confondre. Si le vote unit l'électeur à une action collective via une sorte de lien invisible, il n'en va pas de même de l'action que nous dirigeons vers notre environnement proche. Il y a d'ailleurs deux cas de figure. Dans le premier cas, l'action ou la non-action peut être répréhensible quand elle conduit ou risque fortement de conduire à une situation clairement préjudiciable pour autrui. Par exemple, c'est le cas de la non-assistance à personne en danger, à laquelle il paraît évidemment fondé de s'opposer. Deuxièmement, on peut considérer que l'action ou la non-action peut avoir un impact sur l'environnement. Mais l'acte étant isolé, les conséquences globales seront peu probantes. Alors peu probantes certes, mais au moins localement, elles ne se feront pas forcément nulles. Par exemple, en laissant pousser l'herbe en friche dans un jardin situé au milieu d'un désert agricole industriel, on offre par cette action de résistance un contre-modèle qui pourra inspirer d'autres jardiniers amateurs et qui en pratique sera aussi un abri pour les oiseaux chassé par la monoculture. Mais d'une toute autre nature est l'argument anti-abstentionniste. L'injonction au vote s'inscrit dans la prolongation d'une idéologie conservatrice et d'une posture moraliste. Et oui, si tout le monde faisait comme toi, tu te rends compte de ce que la politique deviendrait ? Et oui, ce sophisme est patent, mais cela n'enlève rien à son succès. Parce qu'il nourrit la plupart des dispositifs qui plombent aujourd'hui le ciel des démocraties occidentales. On en appelle à la responsabilité individuelle pour assurer la perpétuation d'une action collective imaginaire. Comme si, par miracle, la majorité silencieuse allait subitement se mettre à suivre le déviant et perturber l'ordre social. Qu'il s'agisse d'une interdiction ou d'une obligation pesant sur l'action individuelle, celle-ci se retrouve donc toujours soumise à une hypothèse, à un hypothétique effet global ou à une hypothétique action collective. C'est ainsi que l'action individuelle, qui n'a localement ni globalement aucun impact significatif, devient soumise, encadrée, enfermée dans des modèles, des raisonnements, des statistiques, censée anticiper une réalité collective qui, en l'état actuel des choses, n'existe tout simplement pas. C'est donc de cette manière que le préventif, la prédiction de l'expert, mélangé avec la parole du clerc, garant de l'ordre moral, l'emporte sur les faits. Il les efface par la lourdeur d'une évidence qui n'a de matérialité que dans l'ordre du discours. Alors, non seulement cette illusion politique est une pente dangereuse qui nous entraîne dans l'irrationalité d'une société qui préfère la prédiction imaginaire au réel, mais elle est de plus devenue le principal moteur de ce que Tar Bouya appelle la non-force sociale. Enfermé dans l'illusion politique, l'électeur est privé de son initiative et de son désir de transformer et de penser son environnement. Son rôle se borne à celui d'un consommateur qui délègue, ou plutôt qui abandonne, à des experts et à des professionnels le pouvoir d'agir et de penser à sa place. L'électeur consommateur délègue donc sa capacité et son désir d'agir à des firmes qui, quelle que soit leur taille, doivent prêter allégeance aux structures qui les financent ou les englobent. De plus, bercé de l'illusion qu'il garde le contrôle de ses opinions et qu'il est encore en mesure d'influencer à son échelle l'opinion publique, il ignore que les mouvements d'opinion sont aujourd'hui gouvernés par des appareils de propagande redoutablement efficaces. En somme, le vote est donc le pire ennemi de l'action directe, tout comme il sonne le glas de la mort de la pensée critique, du dialogue, voire de l'intersubjectivité. Alors certes, il arrive qu'en dernier recours, quand toutes les tentatives de solutionner un conflit par des voies pacifistes se sont avérées infructueuses, le vote s'impose. Mais quel vote ? Le fait est que le système de vote qui domine les démocraties occidentales est sans doute l'un des plus brutales, l'un des plus hiérarchiques et clivants qui existent. Car il force l'électeur à désigner un unique vainqueur au détriment de tous les autres. Impossible de voter, par exemple, contre un candidat ou de les classer par ordre de préférence. Il n'est possible que d'approuver, dans une logique désespérément binaire, un et un seul candidat. Il existe pourtant bien d'autres outils, et rien n'empêche d'en inventer, qui demeurent fidèles au principe de partage égalitaire du pouvoir décisionnel. Par exemple, le tirage au sort, qui dominait très largement les institutions de la démocratie athénienne. Ce qui questionne, le vote est-il encore un outil décisionnel en ces temps de propagande de masse, ou, sous sa forme la plus fruste, l'uniforme attendu des régimes dits démocratiques qui fondent leur pouvoir non plus sur la défense des libertés individuelles, mais sur la maintenance et l'expansion de lucratifs dispositifs répressifs qui anéantissent toute joie de vivre et toute initiative un tant soit peu non conformiste. Sur cet outil, transformé en marqueur pseudo-démocratique, la mascarade électorale devient la monnaie de singe qui permet à des gouvernements structurellement fondée sur la violence, l'oppression et la domination, de s'acheter une image d'apôtre des libertés individuelles. Berné par cette politique spectacle, l'électeur en vient à cautionner un système dans sa globalité, sans même réfléchir à sa finalité ou à son bien fondé. Devenu vulnérable, il ne tarde pas à se faire coloniser par des discours exogènes qui tentent de le convaincre que l'immigration, le chômage ou la sécurité sont des thèmes majeurs qui le concernent directement. En somme, le vote, c'est donc la diversion. Et l'électeur, le consommateur, qui vote pour se divertir. Bien paisiblement, il se rend aux urnes, comme il se rendait auparavant à l'église. Comme avant, il vient se décharger du poids de ce monde, qui s'écroule lentement en raison de son action et de son inaction. Mais temporairement, le voilà libéré de sa culpabilité. Il a voté, le voilà même fier. Son acte accompli se sent apaisé, débarrassé du poids de ses pulsions honteuses, car il a donné, il a vidé dans l'urne un peu de ce qu'il y avait de pire en lui. Offrant anonymement son vote, il a communié avec la divinité étatique et sa conscience individuelle a momentanément fusionné avec la conscience collective. Ainsi, avec le vote, les idées s'effacent, les débats se closent, les doutes s'estompent. Rien n'est résolu, mais tel un puissant analgésique, le vote distille à l'électeur la sensation de la paix intérieure qui entre en phase avec la paix collective dans laquelle son individualité disparaît. Peu importe que son action ne serve à rien, car n'oublions jamais que le taux d'abstention n'a souvent aucun impact sur le résultat final. Durant quelques secondes, l'électeur a touché du bout des doigts ce pouvoir mystérieux, tabou, distant, inintelligible, qui, une fois l'ivresse du vote retombée, n'aura de cesse de le tourmenter en exigeant un consentement absolu de sa part. Et oui, car en votant, l'électeur s'est fait insidieusement enrôler. Il a accepté les règles d'un jeu, donc quoi qu'il arrive, il ressortira perdant. Voilà, donc c'était un petit essai, hein, voilà. Et...
ouais, il y a beaucoup de mots.
Vous avez, c'était un peu long. Mais c'était pour réfléchir sur la question de l'abstention.
Ouais, moi ça m'a donné des idées.
Bon,
ça m'a
tant
donné
mieux.
Des idées, ouais. On devrait rendre le vote obligatoire. Ça supprimerait le problème.
Voilà. Voilà la solution. Alors, cela dit, c'est déjà le cas dans certains pays. Hein.
Ah ouais?
Ouais, bah par exemple, même en Union européenne, en Belgique, mais c'est pas appliqué.
Ouais.
Je crois en Grèce aussi et aussi en Australie par exemple. Enfin, il y a des pays où le vote est obligatoire.
Ouais. Après, c'est moi c'est une vieille idée à propos du vote, mais en fait, les hommes ne devraient pas être éligibles. Seules les femmes devraient pouvoir être éligibles en quoi que ce soit d'ailleurs, que ce soit association, présidence, machin, etc. Quoi.
Ah, une idée intéressante.
Ouais. Explication de cette idée, justement, en parlant du fascisme, d'où vient le fascisme? Donc, en fait, de ce qu'on appelle la Révolution nationale, période qui est comprise strictement entre 1942 et 1944, conduite par Pétain.
Oui, ou dans d'autres pays, par ce qui a relié au système patriarcal. Quoi.
Ouais, on pourra faire une émission là-dessus plus tard, d'ailleurs on avait prévu, quoi. Sur ce qui reste de Pétain. Et on peut dire que le monde s'est pétainisé, quoi, on va dire.
Hélas. Bon, en attendant, on va s'écouter un peu de musique. Ça va.
Et donc, oui, non, mais je finis mon argument à propos de Pétain, parce que et des femmes. Les femmes, à l'époque, n'avaient pas le droit de vote. Donc, elles ne sont pas responsables, en fait, de cette défaite, etc. Voilà.
Entendu.
Fin du raisonnement.
Ça se défend. Allez, c'est parti. Donc, on écoute Dao Jendo Fight House et un morceau qui s'appelle Liquid Sunday.
We'll be right back.
Et c'est reparti dans l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade. Donc, après ce petit discours, ce petit monologue, hein, on va dire, sur le la défense de l'abstentionnisme, on va maintenant recevoir Rémi Gerbet, donc, qui est président de l'association Wikimedia France. Rémi, est-ce que tu nous entends ?
Je vous entends bien.
Super, bah nous aussi, ça passe très bien. Rémi, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer comment t'es arrivé dans l'association Wikimedia France ?
Bien sûr, avec plaisir. Enchanté tout le monde. Je suis Rémi Gerbet, je suis le directeur exécutif de Wikimedia France, ma présidente.
Ah pardon, ouais.
C'est Capucine Marin.
Mais ouais, ouais, non, désolé. J'ai hésité.
Donc,
en plus.
Je suis arrivé du coup à Wikimedia France en 2015 en tant que volontaire en service civique. J'ai fini un peu mes études d'histoire et je cherchais un peu comme beaucoup un peu ce que j'allais faire un petit peu dans la vie. Et j'ai trouvé cette mission hyper intéressante qui était sur le développement de la diversité linguistique sur les projets Wikimedia, puisque vous savez que on utilise tous et toutes Wikipédia en français, mais en fait il existe également une Wikipédia en occitan, en breton, en picard, etc. Et donc l'association cherchait à développer ces versions linguistiques sur Wikipédia, et donc je suis en 2015 pour cette mission-là.
Oui.
Et en fait, je suis jamais reparti en fait de l'association, puisqu'après, du coup, j'ai eu la chance d'être recruté en tant que chargé de bénévolat. Et aujourd'hui, j'occupe la fonction de directeur, du coup, en 2022. Voilà, un bon parcours, mais extrêmement passionnant et intéressant.
D'accord. Alors, en quelques mots, du coup, parce que, bon, il y a souvent, on va dire, les internautes connaissent Wikipédia, connaissent d'autres projets comme par exemple le Wiktionnaire, voire peut-être dans certains cas la Wikiversité,
oui.
Mais ils savent pas forcément. Ouais, quand j'en parle, je suis assez surpris des fois de voir qu'ils savent pas qu'on peut contribuer aussi, que c'est pas seulement, on va dire, du contenu en libre accès. Donc est-ce que
tout
tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne à ce niveau-là, quelles sont les conditions par exemple pour contribuer?
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, on connaît beaucoup Wikipédia, mais comme tu le signalais, il y a en fait tout autour une galaxie d'autres projets qu'on appelle les projets Wikimedia, au sens large. Donc tu as cité le Wiktionnaire, Wikiversité, on a aussi Wikidata, Wikimedia Commons, qui est la médiathèque, Wikisource, la bibliothèque en ligne, et évidemment le plus connu donc Wikipédia. Comme leur nom l'indique, ce sont tous des sites qui sont basés sur une technologie qui s'appelle le wiki, qui permet du coup l'édition collaborative en ligne d'une page web, et les modifications qui sont faites sont automatiquement enregistrées et publiées.
Oui.
Et donc Wikipédia, c'est sur ce principe-là que Wikipédia s'est développé depuis 2001. Donc pour contribuer sur Wikipédia aujourd'hui, il n'y a aucune barrière. Vous pouvez tous aller sur Wikipédia et vous verrez du coup qu'il y a un onglet modifié en haut à droite d'un article qui vous permet d'instantanément aller contribuer à améliorer les articles de l'encyclopédie, mais aussi du coup le Wiktionnaire, Wikidata, Wikimedia Commons, etc. C'est la philosophie même des projets Wikimedia, qui sont du coup l'encyclopédie collaborative, participative, où chacun et chacune peut améliorer les contenus présents sur le site et librement accessibles et gratuitement accessibles pour toutes et tous, et dans plein de langues différentes en plus.
Oui, oui, donc ça c'est un point sur lequel... un point qui importe pour toi, j'imagine, le fait que ça soit multilingue.
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, en fait, ce qui est très important, c'est que on peut voir ça comme une faiblesse, mais moi je vois plutôt comme une force. C'est-à-dire que quand vous allez lire un article sur la Wikipédia en anglais, sur un sujet précis, si vous lisez le même article sur la Wikipédia en français, vous verrez qu'il y a des différences.
Oui.
Il y a des différences parce que les articles se construisent à la base par les contributeurs qui vont y participer, et même si peut-être à un moment donné il y a une convergence, au fur et à mesure du développement des sujets, en fonction des peuples, en fonction des cultures, en fonction de l'approche que l'on a d'un sujet, les
oui.
articles peuvent être très différents les uns vis-à-vis des autres. Et en fait, le mouvement Wikimedia a comme ambition de collecter l'ensemble des savoirs humains. Et le savoir, le rapport que l'on a à la connaissance, forcément, il évolue, il change, il n'est pas le même entre un Européen, un Africain, quelqu'un qui vit dans l'Amérique du Sud, etc. Et donc, pour collecter cette diversité, on doit aussi avoir cette diversité de points de vue, qui s'expriment sur toutes les versions linguistiques des projets Wikimedia. Et donc, c'est ça qui en fait, pour moi, sa plus grande richesse également. Mmh.
Alors, est-ce que c'est en... Alors, pour parler de la politique éditoriale de Wikipédia, notamment, est-ce que ça rejoint un peu cette idée de neutralité de point de vue, ou c'est quelque chose de différent encore ? Parce que alors, diversité en fait, des points de vue et neutralité de point de vue, c'est peut-être pas pareil. Est-ce que tu peux nous briefer pour que les auditeurs comprennent comment ça fonctionne ?
Bien sûr. Vous avez parlé qu'il y a différentes versions de Wikipédia, ce qui signifie qu'il y a potentiellement autant de règles différentes, sauf 5, ce qu'on appelle les principes fondateurs de Wikipédia. Ces 5 principes fondateurs sont le fait que Wikipédia est une encyclopédie, ça signifie de facto que tout n'a pas sa place sur Wikipédia. Ouais. Le fait que c'est sous licence libre, ça signifie effectivement que vous pouvez tous et toutes récupérer, imprimer, forquer Wikipédia autant que vous voulez, c'est sous licence libre, donc vous pouvez le faire. Mmh. Le fait de la neutralité de point de vue, et ça c'est un des points les plus importants, donc je vais parler un petit peu plus. Après, il y a le fait que Wikipédia est régi par des règles de savoir-vivre, parce que nous sommes dans une communauté humaine, et donc il y a des règles de fonctionnement en collectivité qui s'appliquent sur Wikipédia, et après on dit qu'en général que Wikipédia n'a pas d'autres règles fixes. Ça, ce sont les 5 principes fondateurs de Wikipédia. La neutralité de point de vue, c'est un des éléments les plus importants, effectivement, pour aiguiller les choix éditoriaux. Alors, on va dire que sur un article, sur un sujet quelconque, l'objectif, effectivement, c'est toujours d'arriver à la neutralité de point de vue, c'est-à-dire de représenter le plus fiablement possible l'état actuel des connaissances sur un sujet. Donc, si on prend des articles, par exemple, comme assez connu, l'article concernant les attentats du 11 septembre, vous allez avoir du coup la version, on va dire, officielle, en tout cas la version qui est la plus détaillée, qui est l'état actuel des connaissances sur cet événement dramatique qui est sur le début de l'article, oui. La partie principale de l'article, et vous allez avoir quand même mentionné en bas de l'article le fait qu'il existe des théories alternatives à cette version officielle. C'est mentionné, ce n'est pas effacé, ce n'est pas mis au placard en disant « de toute façon, ce n'est que des théories qui n'ont jamais été démontrées, etc. C'est du complotisme, donc on le cache. » Ce n'est pas du tout ça la version de Wikipédia. Wikipédia, c'est de dire « il existe une version qui est celle que scientifiquement qui est établie, et puis il existe d'autres versions alternatives, on le mentionne, à la juste proportion de ce que cela représente. » Donc ce n'est pas un équilibre forcément très facile à avoir sur pas mal de sujets, notamment quand on est sur des sujets d'actualité. C'est pas toujours évident de conserver cette neutralité en disant il faut que on ne fait pas apparaître une opinion plus qu'une autre. On essaie toujours d'être le plus factuel possible avec cette idée toujours que normalement une information égale une source et une source de qualité. Donc d'accord. C'est là du coup forcément il y a beaucoup de débats et de discussions parfois au sein de la communauté sur un article, etc. Mais en tout cas c'est ce vers quoi tout le monde, toute la communauté essaye de tendre à chaque fois. C'est un peu notre objectif.
Alors quand tu dis qu'il y a beaucoup de débats, bon, je me souviens, j'ai été autrefois un contributeur à Wikipédia, et c'est vrai que donc il y a effectivement c'est très très vivant et c'est un fonctionnement très intéressant aussi du point de vue des règles organisationnelles, la façon dont les contributeurs s'organisent entre eux pour gérer, on va dire pour arriver à faire cette action collective quoi.
Ah tout à fait. Tout à fait. Wikipédia rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les communs. C'est un commun numérique, clairement, c'est-à-dire que c'est un projet qui est gouverné par la communauté des personnes qui agissent sur ce commun. Pour prendre un exemple un peu plus peut-être visible, c'est la question un peu d'un jardin partagé. On a un petit jardin, on est plusieurs personnes qui alimentons ce jardin, récoltons, mettons de nouvelles graines, etc., etc. Oui. Et du coup, on décide collectivement de qu'est-ce qu'on va planter l'année prochaine. Bah, tiens, on va plutôt mettre des carottes, mettre des courgettes, etc. Wikipédia, c'est le même principe. Et c'est en ça que c'est un principe extrêmement intéressant. C'est-à-dire que toutes les personnes qui contribuent à Wikipédia, dans un modèle très démocratique, ont toutes et toutes voix au chapitre, peuvent modifier les règles, les adapter, échangent, discutent, s'autogèrent. Wikimedia France, en tant qu'association qui représente Wikipédia et ses contributeurs en France, ou la Wikimedia Foundation qui héberge Wikipédia, n'ont aucun pouvoir, aucun rôle éditorial sur ce que la communauté va décider. C'est la communauté qui est maîtresse, qui gouverne le projet, qui édicte les règles, qui les adapte, qui les change, qui vote, etc. etc. Et donc en ça, c'est un modèle qui est extrêmement intéressant, qui n'est pas forcément aisément réplicable, parce que ça sous-entend quand même un certain niveau de maturité de la communauté, et ça ne s'est pas construit en un jour. Hein, aujourd'hui, Wikipédia a pris 20 ans. Ça a pris du temps, il a fallu du temps pour que ça arrive à ce niveau-là. Mais c'est effectivement un modèle extrêmement intéressant à étudier, et de plus en plus de chercheurs d'ailleurs aujourd'hui étudient le modèle de fonctionnement Wikipédia. On a de plus en plus d'articles à ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est extrêmement passionnant.
Alors oui, donc un des points clés que tu as l'air de souligner, c'est-à-dire que donc il y a une indépendance, une autonomie de la communauté, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais peut-être la communauté éditoriale ou peut-être aussi la communauté qui développe les logiciels qu'il y a derrière.
Oui. En fait, la communauté des contributeurs, on appelle ça les contributeurs et contributrices de Wikipédia, sont totalement autonomes. C'est-à-dire que ils élisent les administrateurs, c'est-à-dire ceux qui ont certains pouvoirs éditoriaux supplémentaires, comme par exemple bloquer des pages, protéger des articles, bloquer des vandales, des personnes qui arrivent vraiment pour saccager l'encyclopédie. Ça se passe sur une élection. Si on n'est pas content du administrateur, on peut contester son statut et on vote également pour lui retirer ses droits. On va voter pour des bureaucrates, c'est-à-dire ceux qui ont les outils mais qui ne s'en servent pas. Donc on a en fait tout un fonctionnement interne qui s'autogère. On a des comités, etc., des comités de médiation, etc. Donc la communauté s'autogère complètement là-dessus. L'association est là plus pour soutenir cette communauté dans son fonctionnement, dans son développement, etc. Donc on va notamment, nous, agir sur de la formation de nouveaux et nouvelles contributeurs et contributrices pour leur apprendre à utiliser Wikipédia. On va agir au niveau des fois plus de plaidoyer lorsqu'on a des projets de loi ou de réglementation qui peuvent impacter notre communauté et Wikipédia. Donc on va être actif à ce niveau-là. On va aussi protéger la communauté. On sait qu'être contributeur sur Wikipédia, malheureusement, ça peut t'exposer à des attaques de personnes qui ne sont pas contentes de leur biographie, etc., etc. Et donc l'association est là pour protéger les bénévoles de l'encyclopédie également. Voilà, nous on a un peu ce rôle, on essaie d'entourer la communauté, de la renforcer, de l'aider, de la former, etc. Et la communauté, elle ensuite, par contre, est totalement autonome dans son modèle de fonctionnement. Ouais.
Oui, parce que... Il m'est arrivé d'entendre effectivement des personnes avoir un discours un peu critique sur Wikipédia, parce qu'en général c'est moins fréquent qu'ils connaissent les autres projets ou qu'ils ont été amenés à tenter d'y contribuer, et parce qu'ils avaient été refusés, enfin, ou certains de leurs contributions avaient été refusées. Donc, comment la communauté arrive à gérer ce genre de problème, parce qu'en même temps ça peut être des contributeurs qui par ailleurs peuvent amener des éléments intéressants sur d'autres domaines ou sur sur les domaines qu'ils connaissent tout au moins.
Tout à fait. Alors, en règle générale, avec ma petite expérience maintenant de quelques années sur Wikipédia et sur les projets, globalement ceux qui sont retrouvés soit bloqués, soit qui n'ont pas vu leur sujet approuvé, etc., en général, ce sont des personnes qui ont confondu des fois Wikipédia avec leur blog personnel ou leur page d'autopromotion. Le principe, je pense, et ce qu'on essaie d'expliquer dans toutes nos formations et dans toutes les interventions que l'on peut faire, c'est vous n'entrez pas sur un site comme un autre. Vous n'entrez pas sur un site où vous avez juste publié votre CV, votre article, refaire au propre votre page, dans un outil de promotion. C'est une encyclopédie. Il y a des règles qui existent dans cette encyclopédie-là. Et le meilleur conseil qu'on vous donne, surtout de communiquer avec les contributeurs. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas trop si c'est pertinent, pas pertinent, comment le faire, où le faire, sous quelle forme, etc. Ce qu'on peut le conseiller de source, c'est aller communiquer avec la communauté. Il y a plein de forums qui existent pour apprendre. Et en général, quand on le fait sous ces bonnes formes-là, les choses se passent plutôt bien en général. Mais souvent, on a méconnaissance, comme tu disais au début de l'émission, du fonctionnement interne de Wikipédia. Et donc, les personnes vont souvent un peu de manière un peu brutale, essayer de poser un peu leur vision des choses, leurs idées, qui sont pas forcément mauvaises. Hein. C'est pas tout ce que je dis. Au contraire, des fois, c'est des bonnes choses, mais ils le font d'une mauvaise manière. Et c'est pour ça qu'il faut se former, qu'il faut communiquer avec la communauté. Et en règle générale, ça se passe très, très bien.
Oui, d'accord. Et oui, donc c'est aussi par rapport à ce que tu dis, en tant que contributeur, en tant qu'éditeur, y a une sorte d'apprentissage communautaire, on pourrait dire. Enfin, apprendre à les règles de la communauté, dont les règles éditoriales.
Tout à fait. C'est vrai que c'est pas un modèle très très connu. Donc on voit un site, on a l'impression que imaginons, il y a un article te concernant. Bah, tiens, mais cette information-là, moi je considère qu'elle est pas bonne, qu'elle me rend pas suffisamment, je sais pas, qu'elle met pas suffisamment en valeur. On a des fois tendance à juste dire, bah non, moi ça me concerne, c'est mon article, c'est mon sujet, et du coup c'est comme ça que je veux le présenter. Et du coup, on intervient de manière brutale. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre sur Wikipédia, c'est que vous êtes pas, on n'est pas tout seul. C'est pas juste quelques personnes derrière leur PC, derrière une start-up ou je ne sais où, qui gère Wikipédia. Il y a des gens derrière, des bénévoles en plus.
C'est un point à souligner.
Sur leur temps libre. Et donc, il faut aussi à la fois respecter leur engagement, mais aussi le faire avec eux, les aider à améliorer l'encyclopédie. Il y a des erreurs, et ça on s'en est jamais caché. Il y a des zones sur Wikipédia sur lesquelles aujourd'hui il y a des vrais retards. Hein. On parle beaucoup, par exemple, du biais de genre sur Wikipédia, le fait qu'il y a peu de biographies de femmes, le fait que peu de femmes participent, le fait que Wikipédia, malheureusement, soit un projet qui est très occidentalo-centré, c'est beaucoup des Européens et des Américains qui contribuent. Mmh. Donc forcément, il y a des biais sur Wikipédia, forcément, il y a des erreurs, forcément, il y a des aspects qui sont sous-développés par rapport à ce qu'elle devrait, être. Mais le meilleur moyen de faire avancer la connaissance et avancer le site, c'est de comprendre le modèle de fonctionnement et essayer ensuite, petit à petit, du coup, d'y participer, d'y amener du coup sa pierre, en bonne entente avec la communauté, puisque comme je dis, c'est la communauté qui gère, qui contrôle Wikipédia.
Oui, alors donc par rapport à ce que tu dis, par exemple, ça pourrait être apporter des biographies, davantage de biographies féminines. Ouais.
Tout à fait. Il y a des groupes pour ça, de bénévoles, par exemple, comme nous, c'est un groupe qui s'appelle les 100 pages. C'est un groupe de bénévoles qui, justement, agit sur Wikipédia pour réduire le biais de genre. Donc, elles sont organisées, elles organisent souvent des ateliers, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et donc là, si on veut participer, c'est la bonne occasion pour les rencontrer et puis avec elles, avec ces personnes-là, améliorer Wikipédia en créant des biographies, par exemple. Tout à fait.
D'accord. Et j'aimerais aussi que tu nous parles donc des autres projets. Où ça en est à peu près? Est-ce que ces projets-là, les autres projets sont au même niveau d'avancement ou on a des projets qui sont vraiment en démarrage? Qu'est-ce qui fait aussi que certains projets ont été lancés récemment? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur le sujet ou...
Bien sûr, avec plaisir. Alors, on va dire que sur les projets Wikimedia actuellement, il y en a 5-6 qui sont actifs et qui fonctionnent bien. Si j'enlève Wikipédia. Wikimedia Commons, de toute façon, la médiathèque, c'est un projet qui continue de grossir. Je ne sais plus combien il y a de dizaines de millions de fichiers en licence libre sur Wikimedia Commons. La problématique qu'on a avec Wikimedia Commons, et qui est un peu un enjeu de développement pour la suite, c'est structuré. Commons, aujourd'hui, c'est plus un recueil de dépôts d'images, mais si on veut chercher dedans des images en particulier, c'est un petit peu compliqué de naviguer à travers le site. Et donc, effectivement, un enjeu pour le futur par rapport à Commons, ça va être de structurer un peu plus la médiathèque pour rendre facile la consultation d'images. Mm-hmm. Mais Commons se développe bien, il n'y a pas de souci. En plus, c'est un projet unique. Il n'y a pas de version linguistique de Commons. Il y a une seule version pour le monde entier. Le Wiktionnaire fonctionne très bien. Également, en France, une des raisons qui fait que ça fonctionne bien, c'est qu'on a une communauté. Ça sera le même argument pour quasiment tous les autres projets. À partir du moment où il y a une communauté qui est bien engagée, qui tient le projet, qui a envie de le voir vivre, de le développer, etc., il n'y a aucune raison que ça se passe mal, sauf cas de crise interne, c'est possible aussi. Mais globalement, voilà, le Wiktionnaire, nous, fonctionne très très bien, et il est de plus en plus référencé en France. Aujourd'hui, il y a des dictionnaires même financés par le public, comme le Dictionnaire des francophones, qui a été financé en partie par l'État, qui s'appuie sur le Wiktionnaire et qui contribue lui-même au Wiktionnaire. Donc on est vraiment une dynamique très très positive autour de ce projet. Si on parle de Wikidata, là, pareil, on arrive à un niveau de développement qui est très très important. Là, pareil, Wikidata, c'est un projet unique. Donc c'est une base de données libre qui aujourd'hui vient s'insérer derrière Wikipédia, qui structure Wikipédia, mais qui au-delà de ça met en relation les bases de données à travers le monde. Mmh. Aujourd'hui, Wikipédia est tellement développé qu'en fait, il est utilisé massivement par les enceintes connectées, par tous les trucs qu'on de ce type-là, où ils utilisent massivement Wikidata. On est même face peut-être pareil aussi à un problème de croissance de Wikidata, ça devient très très gros. Mmh. Et donc aussi, on se pose des questions un peu sur sa structure pour l'avenir. Wikisource fonctionne bien. Le problème de Wikisource, c'est qu'il manque beaucoup de gadgets techniques un peu pour faciliter le travail de la communauté. C'est un projet dans lequel la Fondation n'a pas forcément mis toujours les moyens pour ses projets. La Fondation a surtout mis les moyens pour Wikipédia et Wikidata ces dernières années. Et du coup, c'est un projet qui est un peu, sur lequel il mériterait, à mon avis, beaucoup plus d'engagement là-dessus.
Qui est donc de construire une bibliothèque collaborative, plus ou moins, c'est ça?
Exactement, tout à fait, exactement, tout à fait, c'est exactement ça. En plus, on peut télécharger depuis Wikisource, du coup, les ouvrages sous format e-pub et compagnie. Donc, en fait, pour les liseuses, etc., c'est également très pratique. Mais voilà, il manquerait un peu d'outils techniques pour faciliter la contribution sur Wikisource. Mais en France, c'est un projet qui vit bien. Après, on a effectivement la Wikiversité qui fonctionne pas mal également, qui manquerait pareil un peu d'être connu. C'est un outil qui est intéressant pour tout ce qui est open education, etc., éducation à distance, ressources éducatives libres, etc. C'est un projet qui est très intéressant pour tout ça. Il n'y a pas énormément de contributeurs. En France, c'est un projet qui n'a pas une grosse communauté. La communauté qu'il y a est très active, mais elle n'est pas suffisamment importante pour donner vraiment à ce projet, je pense, un coup d'accélérateur important. Pourtant, je sais que Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, avait vu en Wikiversité un peu l'avenir des projets Wikimédia il y a quelques années. Mmh. Pour le moment, ça ne s'est pas encore concrétisé. On ne sait pas où ça sera dans quelques années, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas.
D'accord.
Sur les autres projets, c'est plus difficile d'en parler parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus petits.
C'est plus embryonnaire pour l'instant que...
Exactement. Ouais. Ils sont beaucoup plus petits, avec une toute petite communauté. Certains disparaissent, d'autres réapparaissent, mais on a du mal à avoir une vraie dynamique sur les autres projets, Wikimedia.
Alors dans... Allô ?
Oui.
Ah oui, j'ai cru que ça avait coupé un instant. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, il me semble important à souligner, c'est que tous ces projets sont, et notamment Wikidata, sont disponibles. Le contenu de ces projets est disponible gratuitement. Donc ça, c'est une politique, et sans publicité, peut-être aussi
Oui, exactement.
Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu plus peut-être l'exception que la règle, même s'il y a d'autres projets qui fonctionnent sur ce principe-là. Sur quel modèle économique, grosso modo, s'appuie le fonctionnement de Wikimedia et de ses différents projets?
Essentiellement sur le don. Vous voyez chaque année la petite bannière qui apparaît sur Wikipédia en général pour donner 2 euros, etc. Ça, c'est du coup des dons qui sont collectés par la Wikimedia Foundation, donc qui héberge les projets. En fait, la bannière, elle passe de pays en pays en fait régulièrement au cours de l'année. Mm-hmm. Et donc ensuite, ça va dans un immense pot commun que la Fondation après répartit. Elle en garde une grande partie pour tout ce qui est les aspects techniques. C'est un de ses plus gros postes et forcément de dépenses. Et une autre partie de ces fonds sont répartis entre les organisations affiliées dans le monde, donc comme Wikimedia France, comme Wikimedia UK, Wikimedia Tunisie, etc., où on fait des demandes seulement pour développer nos projets au niveau national. Nous, par exemple, on a l'exemple de Wikimedia France, forcément que je maîtrise beaucoup mieux. On est du coup, nous, à un budget où on est à 55% de dons particuliers, avec un don moyen qui se situe autour de 20 euros. 40%, un peu moins de 40% qui vient en fait de la Fondation Wikimedia, donc par ce système dont je vous parlais.
D'accord.
La Fondation récolte des dons et en redistribue, en fait c'est du don mais juste qui passe aux États-Unis avant d'arriver chez nous. Et le reste c'est du mécénat, subvention publique, tout en tant que pour des projets comme Lingualib, donc soit les langues régionales, etc. Donc après c'est des petites subventions par projet. Mais voilà, on fonctionne essentiellement sur du don de particulier au niveau du mouvement. Ouais.
Bon, c'est très intéressant et puis ça prouve que l'économie du don... est viable aussi. Alors peut-être que l'exemple de Wikipédia et des autres projets est pas extensible à tous les autres projets, à d'autres types de projets, mais c'est quand même intéressant de voir que ça permet une autonomie de la fondation et des différents projets qu'elle soutient. Rémi, écoute, merci beaucoup pour ton intervention.
De rien, avec grand plaisir.
C'était vraiment très instructif et passionnant de voir comment ça fonctionne. On espère que ça donnera envie à nos auditeurs de contribuer et que ça va un peu les éclairer sur le fonctionnement, on va dire, en arrière-plan, voilà, des différents projets.
J'espère aussi. Et puis, si des personnes sont intéressées, n'hésitez pas à voir ce que l'association fait. Il y a plein de cours, de formations pour apprendre à contribuer sur Wikipédia. Et merci à vous pour l'invitation. C'est avec grand plaisir de partager nos actions et parler des projets Wikimedia. Merci beaucoup.
Et c'était un plaisir partagé. À très bientôt, Rémi. On aura peut-être l'occasion de te réinviter.
Grand plaisir. À très bientôt.
Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
On va s'écouter maintenant un morceau de EQ qui s'appelle Poursuite, donc c'est du free jazz. Hop, c'est reparti sur l'émission Entrée sans payer. Donc nous sommes sur Radio Balade 101.8. Donc nous avons après nous venons d'entendre juste avant donc Rémi Gerbet qui est le directeur de Wikimedia France qui nous a expliqué un peu comment fonctionnait le Wikimedia, les différents projets Wikipédia, etc. Et maintenant, on va parler d'un sujet complètement différent avec Fred.
Ici même.
Alors attends Fred, tu peux parler ?
Ouais, je parle.
Ok, c'est bon, on entend tout. Ouais. Voilà, donc qui va nous parler du Knot Coin.
Knot Coin. Ouais.
Donc Fred, qu'est-ce que c'est en gros ton idée
C'est pas quoi, ça fait penser aussi un peu à Wikipédia finalement. Bon, sauf que voilà, au lieu de publier, mon idée, ça serait un site, au lieu de publier des articles.
Oui.
De je sais pas quoi, d'encyclopédie, et ben là, les contributeurs créeraient des notcoins. Voilà le principe. Ces notcoins leur appartiendraient. Et ils pourraient les échanger contre des bitcoins ou des euros ou des dollars, à terme.
Et alors, qu'est-ce que tu entends par notcoin ?
Alors, un notcoin, qu'est-ce qu'un notcoin ? Eh ben oui, c'est un objet qui n'est pas mathématique. C'est un nœud.
Oui.
Donc c'est le dessin d'un nœud en fait. Hein. Donc on peut dessiner les nœuds. Les nœuds sont des ronds. En dessinant des ronds, soit des ronds qui se croisent eux-mêmes, soit plusieurs ronds qui se croisent entre eux. Voilà. Donc alors les mathématiciens étudient un peu la chose, mais c'est une autre approche qui n'est pas mathématicienne, qui est graphique, on va dire.
Oui.
Donc que j'explique sur mon site en construction que les auditeurs peuvent consulter webnote.web.app.
D'accord.
web-note.web.app. Bon. Voilà. Donc ça c'est expliqué là-dedans. Je vais parler donc le nœud. Alors il y a deux paramètres du nœud qu'on peut chiffrer, c'est le nombre de ronds et le nombre de croisements.
Oui. Voilà.
Et donc par exemple, plus vous avez de croisements, plus vous avez de possibilités de dessin, quoi. Donc quand vous arrivez à 23 croisements, par exemple, vous avez des milliards de possibilités de dessin.
Oui.
Ce qui correspond à peu près à la quantité de bitcoin qui circule actuellement, hein,
pour faire un
petit parallèle. Quoi. Donc c'est quand même du boulot à dessiner. Ça va, on va peut-être pas y arriver tout de suite. C'est pour ça qu'il faut des contributeurs, il faut des gens qui vont créer leur propre monnaie. En fait, c'est ça l'idée révolutionnaire. Quoi. Personne n'y a pensé juste avant. Que j'y pense la semaine dernière, quoi. Hein. À mon avis.
Non, c'est bien. C'est bien. Et je trouve ça bien parce que c'est intéressant de voir une idée à ses débuts, quoi.
Ouais.
Bon, qui après va devoir être confronté ou pas.
Au réel, forcément, ouais. C'est sûr que ça va dépendre de la communauté. Mais je pense que ça peut aller vite. Aujourd'hui, il y a 5 milliards de personnes qui ont accès à Internet, là, sur la planète. Ça a augmenté avec le Covid. Ça va encore augmenter. Bientôt, même les pygmées pourront fabriquer des notcoins, quoi.
Oui, bien sûr. oui, mais ça, après, ça amène à réfléchir aussi sur les crypto-monnaies, et notamment la question du minage.
Voilà.
Le minage, c'est... Enfin, en tout cas, dans ce que tu espères faire, ça sera un minage... On va dire basé plus sur de l'énergie humaine que
exactement,
plus sur
ouais.
de l'énergie informatique. Quoi.
Voilà, ouais, ça sera complètement analogique, quoi. Enfin, en partie analogique, quoi, parce qu'il y aura toujours, il faudra toujours un contrôle humain, quoi, et une manufacture humaine, quoi. Bon, alors ça pourra se faire sur une tablette, peut-être. Je sais pas. Il y aura une application, toc toc, que vous dessinerez sur la tablette un nœud. un dessin de nœud, quoi, un état nœudien. Bon, alors, par exemple, ben voilà, vous êtes plusieurs à avoir dessiné le même état nœudien au même moment, parce qu'il y aura des bourses, quoi. Donc, vous partagerez le note coin, quoi. Vous aurez, s'il y en a deux qui ont fait le même, ben, chacun aura une moitié de note coin, quoi. Voilà, quand pour, il y aura peut-être, voilà, comment on réglera les litiges éventuels, hein. S'il y aura, voilà, ça sera en deux temps, il y aura la bourse où on émettra les node coins, quoi, toc, il y aura la planche à node coin. Et ensuite, après, il y aura la délibération, la correction, parce que aussi, vous pouvez faire un dessin qui est faux. Donc, à ce moment-là, il faudra les corriger, et celui qui aura corrigé un dessin faux, recevra une contribution aussi. Donc, il y aura un genre d'administration, pareil, décentralisée, quoi, qui se fait... en ligne.
Sur le principe des crypto-monnaies, donc.
Crypto-monnaies, ouais.
L'administration et.
La différence, ouais, c'est que c'est vachement plus démocratique, libéral que le Bitcoin. Parce que si vous voulez faire du Bitcoin aujourd'hui, vous n'avez aucune chance, quoi. Il faut vous acheter un hangar plein d'ordinateurs, quoi.
C'est extrêmement énergivore.
Et c'est extrêmement énergivore, ouais.
Voilà, donc, intéressant, hein, cette idée de revenir finalement à. Des crypto-monnaies manuelles, pourquoi pas. Intéressant. Et merci à vous d'avoir écouté l'émission Entrée sans payer. Merci à Radio Balade de nous avoir invités. On va s'écouter maintenant, pour terminer, un morceau de Merci Merci. Voilà. Et au mois prochain.